je voudrais dire simplement que, avec sa grande disponibilité, Sandrine nous propose depuis maintenant, ça fait 2 ans quand même qu'on a commencé à force, hein, mais il y avait eu d'autres fois, et nombreuses, proposer de nous apporter finalement ses connaissances et de les partager avec nous, parce que c'est comme ça qu'elle conçoit et son chemin pour le Seigneur et son service finalement. Et moi, c'est ce que je reçois et j'en suis très heureux. Bon, on a discuté un peu en se disant quelle aurait pu être cette année l'enseignement qui pourrait nous être fait. Et c'est vrai qu'en échangeant, c'est moi-même qui me suis permis de suggérer qu'on pouvait essayer de faire un chemin autour de conceptions sur lesquelles nous échangeons très souvent, dont nous parlons très souvent dans nos prières et dans les homélies, qui sont la confession des péchés, qui sont le repentir, qui sont l'humilité, enfin toutes ces sortes de choses, qui sont des concepts qui très souvent ont besoin d'être clarifiés et ont besoin d'être réalignés dans la perspective orthodoxe, surtout. Hein? Et puis moi, en tant que prêtre de cette paroisse qui commence à avoir un peu blanchi, les cheveux le montrent, sous le harnois de la pastorale dans cette paroisse, je me dis que je ne suis pas sûr que nous ayons tous en commun la même compréhension, la même acception de ce que sont ces moments particuliers de notre vie, la confession, mais aussi les concepts, entre guillemets, de... Voilà. Et donc, on en a parlé, elle m'a dit, mais c'est génial! Voilà, ça c'est la première fois. La deuxième fois, elle me dit, tu vois, je vois absolument pas ce que je vais pouvoir dire là-dessus. Et ça fait rien si on rentre un peu dans notre intimité.
Oui, oui.
Généralement, j'ai un mail, j'ai bien réfléchi, c'est absolument fantastique, il faut faire ça. Voilà. Donc, on l'accueille dans ce contexte-là. Et moi, j'en suis très, très heureux. Et puis, c'est toi qui parles. J'arrête là.
Bon. Merci, en tout cas, de m'accueillir et puis de cette joie d'être fraternelle ensemble. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez court. Parce que l'important, ce n'est pas ce que je vais pouvoir dire. C'est qu'à partir de ce que le Seigneur m'a donné au cœur, de vous transmettre, voilà, comment chacun on a envie de réagir, comment ça résonne, etc. Si tu n'entends pas, viens par là, Père. Je veux
non,
pas que tu...
Ça va. C'est la même distance. Là.
Non, non, non.
Mets-toi là.
Viens te mettre ici. Non, non, viens te mettre ici parce que les autres sont gênés. Ils sont gênés derrière lui. Ils sont gênés derrière lui, il est trop grand. Pardonnez-moi, mais... Pardonnez-moi, Père Nicolas, hein, mais...
Alors, en fait, je pense que cette idée de faire 3 séances sur le même thème, c'est très important, surtout un thème aussi énorme que la confession ou le sacrement de réconciliation, parce qu'on va pouvoir regarder plusieurs aspects l'un à la suite de l'autre. On regardera tout ce qui concerne le repentir et le pardon la fois prochaine, donc c'est pas qu'il ne faut pas poser de questions, mais vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas tout faire en une séance. Et comme je voudrais faire quelque chose de court, je vais me concentrer sur qu'est-ce que c'est que la confession, comment nous distinguons confession et psychothérapie, ou dialogue psychologique, ou dialogue de ce qu'on a dans l'âme, enfin bon. Et pourquoi pourquoi l'Église orthodoxe nous propose de nous confesser. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ça? Voilà. Alors, avant d'entrer directement dans le sujet, j'ai évidemment, moi, en tant que bibliste, je suis allée voir un peu ce qui se passe dans la Bible. Et si nous regardons d'abord, ne serait-ce que dans notre propre tradition, c'est quoi ce mot « confession » ? Il vient du verbe « confesser ». Et qu'est-ce que nous confessons en tout premier lieu quand on est chrétien ? Nous confessons Jésus-Christ, mort, ressuscité, Jésus-Christ venu dans la chair, mort, ressuscité, monté à la droite du Père, venu sauver les pécheurs que nous sommes. Voilà. Donc c'est la première confession. Donc c'est ça le plus important. Et si nous ne confessons pas ça, c'est pas la peine de continuer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment notre confession fondamentale. Ressusciter le troisième jour, C'est donc une confession de foi en un Christ incarné, mort et ressuscité. Pour nous, il n'est pas venu pour je ne sais pas quoi, il est venu pour nous. Et nous le déclarons à chaque divine liturgie, publiquement. Donc nous confessons publiquement à chaque divine liturgie, et éventuellement à d'autres moments, ce Christ mort et ressuscité pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot confession dans la Bible ou dans l'Évangile ? Alors, j'ai regardé, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Par exemple, 1 Jean 2, 23, « Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père, qui confesse le Fils, vous voyez, hein, je ne vous dis pas des bêtises, hein, qui confesse le Fils possède aussi le Père. Ainsi, à ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc vous voyez bien que la confession, c'est vraiment ça. Et je suis allée voir le grec, et nous avons le terme. Alors vous me corrigerez, parce que vous savez que mon grec parlé est très mauvais. Donc n'hésitez pas, là, les hellénistes de haute qualité. Homologone ou exomologone, c'est le mot grec pour dire confesser. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mot, il a plusieurs sens en grec, et on va le voir dans la suite de ma recherche biblique. Donc si cette confession là n'est pas notre première confession, qui est de confesser Jésus venu dans la chair, voilà, n'allons pas plus loin, quoi. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est que ce mot nous renvoie à est-ce que nous sommes prêts à devenir, excusez-moi le terme, mais c'est un terme typiquement orthodoxe, des confesseurs de la foi. Des confesseurs de la foi. Et les confesseurs de la foi, bah, ils sont morts martyrs. D'accord ? Donc vous voyez déjà ce seul mot, à quel point il nous porte. Hein. Et c'est seulement parce que nous confessons Jésus, Yeshua, Jésus-Christ comme sauveur, que nous pouvons alors confesser nos fautes. Mais ça nous renvoie à notre foi. Où en est notre foi ? Parce qu'évidemment, si on a une foi petite comme un grain de sévenuvé, on n'a rien à confesser, quoi. Hein ? Bon. Alors après, le deuxième sens de confesser, c'est évidemment révéler quelque chose dans le sens de reconnaître. Et il s'agit ici de révéler quelque chose de nous-mêmes. Et quelque chose dont nous préférerions peut-être garder le secret. Si, dans une minute, un ange descend et dit dans cette salle ouvertement « Je vais révéler les péchés que vous avez commis depuis le début de votre vie », je crois qu'on est tous sortis de la pièce.
En courant.
En courant. Ouais. Donc voyez un peu la peur qu'on a, la trouille qu'on a de révéler nos fautes. Parce que, on est des gens bien quand même, et puis qu'on veut se montrer bien aux autres. Hein, si j'ai fait tous les pires crimes du ciel et de la terre, que personne autour de nous ne peut soupçonner, vous imaginez qu'est-ce que l'autre il va penser de moi. Donc vous voyez, tout ça, il faut tout laisser tomber de ça. Voilà. Qu'est-ce que l'autre pense de moi, ça n'a aucun intérêt. Acceptons de révéler nos fautes. Bon, alors, il ne s'agit pas de les révéler publiquement, bien sûr. Bien que, dans les débuts de l'Église, c'est comme ça que ça se faisait. Hein. Voilà. Et donc vous rendez compte. Et puis les pénitents, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Hein, avec ils ne venaient plus communier. Enfin, c'était des pénitences publiques extrêmement fortes. On en reparlera de ça, parce qu'il y a tout un aspect ecclésial dans la confession qui est très important, et on en reparlera. Et donc, on préfère ne pas confesser nos fautes, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Parce qu'on préfère les oublier, parce qu'on va dire, on va les oublier, on va les mettre de côté, et puis c'est fini. Alors que justement, toute la qualité de la vie chrétienne, de la vie dans l'Évangile, c'est de dire, ces fautes-là, même les plus petites, parce que vous savez, chez nous, dans l'orthodoxie, il n'y a pas véniel, je ne sais pas quoi, là, mortel, je ne sais pas quoi, toutes les fautes sont importantes, toutes, même les plus petites. Et plus on s'approche de Dieu, plus on rentre dans la sainteté, plus on se sent pécheur. Et demander à tous ceux... à nos frères glorifiés récemment, Demandez-leur comment ils se sont sentis pécheurs et qu'ils se sont repentis jusqu'à la fin de leur jour de tous leurs péchés qu'ils ont commis depuis le début. Donc c'est très important, cette conscience de moindre petite chose qui blesse mon frère, moindre petite chose qui blesse Dieu, je suis pécheur. Voilà. Et je dois le reconnaître, et je ne dois pas le mettre de côté. Ah, c'est pas grave. Ok, Dieu m'aime, ok, mais c'est grave. Parce que j'ai rompu la relation. Alors on parlera aussi du fait que, attention avec tous ces trucs de morale, on n'est pas là-dedans dans l'orthodoxie. Le péché n'est pas juridique, c'est pas un problème juridique, c'est un problème de relation. Est-ce que je suis ou non en communion avec Dieu, avec mon frère? C'est ça la clé. On n'est pas dans des choses de morale. Il n'y a pas de théologie morale. Je suis dans l'équipe des professeurs de Saint-Serge. Il n'y a personne n'a jamais enseigné la théologie morale dans un institut de théologie. On enchaîne la théologie ascétique. C'est tout à fait autre chose. Okay. On pourra en revenir là-dessus peut-être la fois prochaine. Alors, dans le livre d'Esdras, j'ai dû faire un truc incroyable. Esdras 10, verset 11. Après, alors, trois traductions. Donc, j'ai évidemment regardé l'hébreu et le grec. Hein. C'est très intéressant. Le grec, c'est Enesin. Et l'hébreu, c'est Tnu Toda. Ce qui exactement veut dire rendre grâce. Rendre grâce. Tnu Toda, c'est donner un merci, c'est rendre grâce. Et Enesin, ça veut dire louer. Trois traductions en français. Première traduction dans la Bible de Jérusalem. À présent, rendez grâce au Seigneur, le Dieu de vos pères, et accomplissez sa volonté, etc. Deuxième, confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Le même mot, hein. Le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Troisième, la Tob. Maintenant, confessez-vous au Seigneur, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Donc vous sentez dans les traductions, on oscille entre cette confession qui est une action de grâce parce que j'ai confessé, nous en tant que chrétiens, Père, Fils et Saint-Esprit, mais en même temps c'est confesser votre faute. Vous voyez ? Donc ça c'est très important de jamais perdre de vue ces deux aspects de ce mot confession. Dans le livre de Daniel, je parlais encore, je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et là nous avons Exomulou Gemenos, donc le terme qu'on a employé tout à l'heure. Et puis en hébreu, c'est mitvadé. Mitvadé, c'est le vidouille, et c'est vraiment la confession des fautes. Voilà. Et puis en Jean 1,9, si nous confessons, donc homologone, encore le même mot, si nous confessons nos péchés, lui fidèle et juste pardonnera nos péchés. Et il nous purifiera de toute iniquité. Et en Jacques, Exomulou Gemenos, toujours le même mot. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Je pense que c'est ça la clé. Donc, retenons une chose. Qu'est-ce que c'est le synonyme de confesser ? C'est reconnaître, révéler, déclarer, découvrir, admettre, avouer, confier, s'accuser. L'antonyme, cacher, contester, démentir, désavouer, dissimuler, déguiser, nier, omettre, taire. Et ça, on y reviendra aussi. On y reviendra aussi. Alors maintenant, on va se poser la question, c'est quoi la confession dans l'Église ? Donc, d'abord une confession de foi, comme je viens de dire. Je dois confesser, quand j'arrive devant le prêtre, je dois confesser que je crois au Christ mort et ressuscité pour moi. Ensuite, c'est effectivement l'aveu, la révélation, la découverte de ce qui se passe dedans, de mes fautes, de mes manquements. Mais attention, on ne se confesse pas au prêtre, on se confesse au Christ. Ça, c'est fondamental. Et généralement, dans l'Église orthodoxe en tout cas, on est devant l'icône du Christ ou devant le Saint-Évangile, bon, ça dépend des traditions, avec la croix, et le prêtre, il est à côté. Donc c'est au Christ qu'on parle. C'est fondamental. Le prêtre, là, n'est qu'un témoin, on en reparlera beaucoup de ça, c'est très important, un témoin important, mais je parle au Christ. Donc je ne suis pas devant un juge redoutable. Je ne suis pas devant le tribunal Père Fouettard. Je suis devant le médecin de corps et des âmes. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous donnons nos fautes, nos turbitudes, nos obscurités profondes, nos résistances, nos crimes, nos souillures, toutes nos transgressions, toutes nos protestations, tous nos mépris, tous nos jugements, toutes nos médisances, bref, toutes les maladies de notre âme et de notre corps, nous le donnons au Christ. Et pourquoi on le donne au Christ ? Parce que le seul qui peut nous délivrer, c'est lui. C'est le seul. Donc si on n'est pas convaincu de ça, il vaut mieux pas s'approcher. Ça sert à rien. Et si le prêtre est témoin de ce don que nous faisons au Christ, de ce retour du fils prodigue, alors il va pouvoir se laisser inspirer pour accueillir ce don. Parce que vous savez que dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas un repentir, il n'y a pas de possibilité de confession des fautes. C'est pas un truc magique, on n'est pas dans la baguette magique. Donc, si on croit que l'absolution des péchés est un pouvoir du prêtre immédiatement efficace, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la parole de l'absolution est prononcée, c'est dévié vers la magie. La confession n'est pas de la magie. C'est pas un pouvoir comme ça, poudre à perlimpinpin. Pourquoi ? Parce que la confession est un sacrement de l'Église. Et l'Église nous offre ce merveilleux sacrement comme un cadeau pour notre guérison. Et c'est pour cela que le Christ a donné à ses apôtres et ensuite à tous les évêques et prêtres qui ont suivi le pouvoir de délier au nom du Christ. Et le prêtre est là non seulement comme un témoin, mais comme un intercesseur, comme un célébrant du mystère. Nous sommes en sacrement. Hein ? Il est le canal entre la grâce de Dieu et le pénitent. C'est pour ça que, en principe, normalement, alors peut-être il y a des économies, certains évêques peuvent peut-être en donner, mais normalement, il faut être en présence du prêtre. On ne fait pas ça par téléphone, on ne fait pas ça par email ou par je ne sais pas quoi. On est en présence parce qu'on célèbre un mystère, un sacrement. Donc le pénitent, le Christ et le prêtre doivent être en présence. Parce que la grâce divine va se manifester ici et maintenant, dans la confession. On ne se confesse pas pour son petit confort personnel, pour se sentir mieux, pour se sentir soulagé. C'est pas ça le but de la confession. On y reviendra sur ce truc de soulagement et tout ça. On s'y confesse parce que nous sommes membres de l'Église. Et que baptisés, nous sommes responsables de toute l'Église. Toute l'Église, toute entière. Et que nous sommes donc responsables de mettre à la lumière toutes nos obscurités. Et de nous en délivrer. Et de vouloir en être délivrés. Pourquoi ? Parce que nous sommes responsables que l'Église soit plus lumineuse, plus conforme à sa mission d'annoncer l'Évangile. Et nous revenons sur saint Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ça, on l'oublie. On oublie qu'on est membre de l'Église et que c'est aussi pour l'Église. Vous avez déjà vu un évêque, se confesser tout seul parce qu'il est évêque ? Ça n'existe pas dans l'Église. Même les évêques, même les patriarches, ils vont se confesser à un autre. À un autre qu'eux. Précisément parce que c'est l'Église. Et qu'on n'est pas tous, on n'est pas seul dans l'Église. On ne fait pas sa petite Église tout seul. La preuve en est, c'est que Jonas, qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas ? Vous savez, Dieu lui demande, tu vas aller à Ninive, et puis lui, il part à l'autre bout, à Tarsis. Alors, on pourra parler de Jonas longuement, parce que c'est un ami à moi, je l'ai fréquenté quelque temps, que je trouve extraordinaire. Il ne veut pas y aller. Et pourquoi il ne veut pas y aller ? Parce qu'il sait que Ninive, la ville païenne, la ville qui adore les idoles, va se repentir, et que ses propres frères juifs, hébreux, ne se repentent pas, et qu'il ne veut pas faire honte à ses frères juifs. donc il ne veut pas y aller, parce qu'il sait qu'elle va se repentir. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash et c'est aussi Saint Jérôme. Donc on a un père de l'Église qui dit comme le Midrash, c'est intéressant. Et il va au fond du bateau. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cache son péché. Il se planque là. Et puis la tempête se déchaîne. Et ben, à cause de Jonas, tout le monde a failli mourir. Jusqu'à ce qu'on vienne le chercher du bateau. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu implores pas ton Dieu? Qu'est-ce que tu nous trafiques? C'est à cause de moi. Et à partir du moment où il reconnaît devant les autres, c'est à cause de moi que cette tempête se déchaîne. Alors, tout bascule. Et tout le monde est sauvé, y compris Jonas. Jetez-moi dans la mer. Et il accepte, j'ai envie de dire, l'épitimie, pratiquement. Jetez-moi dans la mer. Voilà. Donc, vous rendez compte l'importance que c'est, parce que le bateau qu'est l'Église, nous en sommes responsables. Et moins on nettoie l'intérieur de toutes nos obscurités, plus on met l'Église dans l'obscurité, dans la tempête. Et on n'a pas le droit de faire ça. On est responsable. On n'est pas baptisé pour rien. Donc, pour épargner nos frères, donc c'est pour ça que ce soulagement personnel, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ambigu, mais on en reparlera, c'est pour l'Église que nous nous confessons. C'est pour nous, dans le sens où on a besoin d'être guéri intérieurement, bien sûr, mais c'est pour l'Église. L'Église, elle doit être pleine de lumière. Et moins on se confesse, moins l'Église est porteuse de lumière. Donc n'hésitons pas, quoi. N'hésitons pas, mettons tout à la lumière. C'est fondamental. Alors maintenant, je voudrais faire dire un petit mot. La confession n'est pas un entretien psychologique. Alors là, j'ai puisé Jean-Claude Larchet qui en parle un peu et qui propose quatre remarques sur ce point. Premièrement, les maladies psychiques doivent être évidemment distinguées des maladies spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont de nature différente. Puisqu'il y a trois niveaux distincts chez l'homme, et nous avons fait des grandes rencontres il y a un an ou deux sur la question, l'homme est fait, est constitué, comme le dit Saint-Irénée, comme le dit Saint-Paul, Saint-Paul ou Saint-Irénée, il faudrait le dire dans l'ordre, de corps, d'un âme, psyché, et d'un esprit, pneuma. Ok. Et donc, ce qui concerne le pneuma et la psyché, ça n'est pas ce qui concerne le corps, donc il ne faut pas tout mélanger. Ok. Deuxième point, certaines maladies psychologiques, c'est vrai, sont liées aux maladies spirituelles, c'est ce qu'on appelle le psycho-spirituel, ou les maladies psychosomatiques. Voilà. Donc certaines sont liées au corps, certaines sont liées à la... Voilà, parce que... Et il y a des mots pour ça, hein, pour les appeler. Bon. Donc qu'une maladie soit plus liée sur le plan psychologique ou somatique, psychosomatique ou psychospirituel, il faut quand même le distinguer, même si... Il y a des liens entre les deux, il faut trouver le lien, mais il faut quand même le distinguer. Et c'est pour ça que certaines guérisons des maladies somatiques ou psychologiques peuvent dépendre de la guérison spirituelle. Donc c'est pour ça que tout ça, il faut être assez fin pour pouvoir mettre les choses au bon endroit. Ensuite, troisième point, les personnes qui souffrent d'une maladie psychique ou qui ont une grave atteinte dans leur nature, hein, des schizophrènes, des psychotiques graves, ne sont pas forcément des plus grands pécheurs que les autres. Attention, c'est pas parce qu'ils ont un comportement incohérent et qu'ils peuvent l'avoir. Ensuite, la thérapie spirituelle doit être distinguée de la psychothérapie. Le but de la thérapie spirituelle, c'est de guérir la maladie spirituelle. Tout comme la psychothérapie, c'est de guérir la maladie d'ordre psychologique. Alors, je vais expliquer mieux là, parce que c'est toujours très confus. Si nous sommes d'accord que nous sommes corps, âme, esprit, on peut se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire d'associer une thérapie spirituelle à une thérapie psychologique ? Certains vont dire que de même qu'un traitement médical prend soin de la dimension corporelle, physiologique, de même un traitement psychique peut prendre soin de la psyché. Mais là, il y a beaucoup de précautions à prendre. Pour que la combinaison entre la vie psychique et la vie spirituelle soit fructueuse, il y a des questions de compatibilité et d'harmonie ou non. Une psychothérapie qui sera fondée sur une anthropologie qui n'est pas une anthropologie chrétienne sera une catastrophe. Une psychothérapie qui sera fondée sur une anthropologie chrétienne, évidemment anthropologie chrétienne orthodoxe, parce qu'on est bien d'accord qu'on n'a pas la même anthropologie avec les latins, là, ça pourra effectivement être une réussite. Donc il faut bien faire attention. C'est pas qu'il n'y a pas de contre-indication, mais il faut être prudent. Et je vais vous donner deux, trois points précis sur cette question. L'anthropologie chrétienne est construite sur la relation de l'homme avec Dieu. Alors, je vais dire un grand mot, mais vous mettez sous ce grand mot toutes les nouvelles thérapies actuelles. Parce que quand même, le père de la psychothérapie, c'est quand même Freud. Hein, même si après, il y a eu beaucoup de choses. Mais vous mettez tout là-dedans. C'est juste, voilà, hein, pour donner un mot un peu général. Alors que l'anthropologie chrétienne est construite sur la relation entre l'homme et Dieu, alors que l'anthropologie freudienne, psychologique si on veut, plus largement, considère le développement humain indépendamment de Dieu, et parfois même en opposition à Dieu. Quand on lit l'avenir d'une illusion de Freud, la religion apparaît comme une drogue, une illusion, voire une névrose collective. L'anthropologie freudienne est donc à son fondement opposée à l'anthropologie chrétienne. Et elle ignore quelque chose de fondamental, et même s'il y a d'autres types de psychothérapie ou de psychologie ou de méthodes psychologiques qui font, j'ai envie de dire, honneur à l'aspect spirituel dans la personne, et il y en a beaucoup, attention. Parce que est-ce que c'est simplement l'honneur de la psychologie de la personne parce qu'elle est dans le développement personnel, et ça on en avait déjà parlé il y a un an ou deux, en disant qu'on tourne en rond dans ce qui s'appelle de la nature, parce qu'on n'est pas, c'est pas une construction entre l'homme et Dieu, dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est pas ça qui est au centre, donc faites très attention à ça. Donc la psychologie va traiter, la psychologie va oublier qu'elle est en train de traiter l'homme déchu. Et nous en avions déjà parlé, nous sommes dans le monde déchu. Et nous oublions tout le temps qu'on est dans le monde déchu. Nous sommes dans le monde d'après la chute, c'est-à-dire l'homme coupé de Dieu, l'homme loin du paradis de délices. L'homme qui a dit, tu m'as dit ça Dieu, j'en ai rien à faire, moi je me sers. Je me sers, j'ai pas besoin de toi, je me sers. Voilà, on est dans ce monde-là. Donc forcément, si on ne remet pas Dieu au centre, on ne va jamais pouvoir guérir. Puisque c'est ça, c'est vers la guérison de cette chute que nous allons. Donc si on ne remet pas Dieu au centre, si on ne remet pas l'obéissance à Dieu au centre, ben, on ne pourra jamais guérir. Parce qu'on va reproduire cette chute qu'on reproduit depuis 2000 ans d'ailleurs, entre guillemets. Et donc la psychologie va oublier que l'homme est dans son état déchu, contre nature. Et que, alors que la vie chrétienne va dire, l'homme est en restauration, est en attente, en tension vers une restauration dans son état initial, cataphysine, conforme à sa vraie nature, qui est une nature bonne. Et d'ailleurs, ça ressort beaucoup du concept freudien, par exemple, de libido. C'est typique, où il n'a rien compris ce que c'est que la nature déchue. Pour Freud, par exemple, et d'autres thérapies, hein, l'énergie humaine est à l'origine liée au corps dans ses fonctions physiologiques de base et orientée dans un but spirituel, corporel, pardon, orientée vers un but corporel. L'anthropologie chrétienne, développée par tous les pères, va affirmer exactement le contraire. L'énergie ou le désir originel en l'homme était d'abord orienté vers Dieu et pas vers soi-même. Mais à cause du péché, cette énergie spirituelle a été déchue et désorientée et mal orientée et du coup tournée vers soi et vers tout ce qui est les cinq sens. C'est par les cinq sens qu'on pêche, hein, c'est, et donc corporellement, quoi. L'anthropologie freudienne a une approche hédoniste. L'anthropologie chrétienne a une approche ascétique. On est sur deux registres, ça n'a rien à voir, il faut être très clair. C'est pourquoi, si jamais il y avait besoin d'une thérapie psychologique, et il peut y en avoir besoin, on n'est pas des fondamentalistes, si vous voulez. Faut faire attention aussi à ne pas tomber dans un excès. Il faudrait reconnaître l'implication des facteurs spirituels dans beaucoup de troubles psychologiques. Et il faudrait donc s'adresser à un psychologue, voilà, qui a cette anthropologie chrétienne orthodoxe, qui lui-même devrait être en mesure de distinguer c'est quoi la psychologie, c'est quoi la vie spirituelle de cette personne qui vient vers moi, et quels sont les points précis où il y a une guérison psychologique peut-être à apporter, mais la guérison spirituelle, il faut le renvoyer au prêtre. Parce qu'il n'y a que Dieu. Ce n'est pas le prêtre qui guérit, c'est Dieu. Mais le prêtre, il est médiation du sacrement. Et donc, la thérapie du psychologue devra être en harmonie avec les principes de la thérapie spirituelle et s'y conformer. Alors, après, il y a une autre petite chose à distinguer qui est que si on la distingue pas très bien, c'est pas si grave, mais quand même, c'est bien d'en dire quelques mots. C'est par rapport à la confusion qui peut exister entre la confession sacramentaire et le dialogue spirituel avec un prêtre. Un jeune va se confier à un plus ancien et va avoir des dialogues spirituels réguliers. Un père spirituel, si vous voulez, ou une mère spirituelle. Alors, il faut savoir que... Et il y a tout cet aspect de manifestation des pensées. La paternité spirituelle, elle s'est développée, on le sait, de manière imminente, dans le cadre de la vie monastique, dans le milieu monastique. Le jeune va découvrir auprès d'un staret, d'un hieronda, va découvrir la force que porte le hieronda et va avoir le désir, j'ai envie de dire, de tracer le même chemin et de gagner en force spirituelle, alors qu'il est tout jeune et puis bon, il sait pas encore comment se dépatouiller avec toutes ses passions, toutes ses pensées. Et donc, il va ouvrir son cœur à ce Yanda. Donc, cette pratique est très importante, que ce soit dans le cadre monastique ou pas, parce que vous savez que nous n'avons pas deux vitesses, nous, dans l'orthodoxie. Nous n'en avons qu'une, elle est la même pour tous. La vie que nous menons peut être différente dans le plan concret, mais la vitesse est la même pour tous et la théologie ascétique est la même pour tous. Ça, c'est capital aussi. Il ne faut pas dire « Ah, eux, ils sont moines, c'est normal. » Non, non, non. Ça, c'est très important aussi. Donc, cette pratique du dialogue spirituel, de la paternité spirituelle, est très importante parce qu'elle est nécessaire pour celui qui veut entrer dans le combat spirituel. Et le père spirituel va aider le jeune à acquérir une certaine expérience et un certain discernement sur lui-même. Et par cet éclairage de l'aîné, du Hieronda, le plus jeune va réussir à prendre les bonnes décisions pour sa vie, à adopter la bonne attitude en vue de guérir de ses maladies intérieures. Et l'entretien spirituel peut aussi aider un plus jeune à découvrir comment nommer son péché. Parce que parfois on a un péché, on ne le voit pas. Ou on ne le voit pas, on ne sait pas le nommer. On a un malaise, on tourne en rond autour de quelque chose. Et puis, un plus ancien, il va poser des questions, on va dire. Et ce serait pas ça. Puis à un moment donné, paf, il y a une lumière qui vient, qui dit oui, voilà, c'est ce mot-là qui convient. Et après, on peut le nommer, on peut le donner dans le sacrement. Mais tant qu'on n'a pas nommé, on ne peut rien donner dans le sacrement. Donc c'est très important. Donc, ces deux choses sont liées, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'une confession, elle peut durer 3 minutes. Mais ça peut aussi durer 1 heure. Mais si elle dure 1 heure, c'est qu'elle est suivie, elle est précédée plutôt par cet entretien où les choses petit à petit ont émergé et on a pu réussir enfin à mettre des mots. Et c'est avec ces mots-là que le confesseur va pouvoir donner le sacrement de l'Église. Alors, il y a deux modèles dans la confession. Deux concepts différents. Le premier modèle, c'est celui du juge, du tribunal. Le Christ est le juge. Le péché est un manquement à la loi. Et dans ce modèle, le pénitent a besoin d'une absolution pour être lavé de son sentiment de culpabilité. Et évidemment, ce point de vue va avoir une répercussion sur l'interprétation de la confession telle qu'on peut l'imaginer et qu'elle a pu être dans certaines parties de l'Église vécue. Donc le péché est une transgression de la loi, et le déroulement finalement de la confession est finalement comparable à celui d'un procès. Je caricature un peu fort, exprès pour que ce soit clair. Le confesseur devient le juge, qui a le pouvoir de lier et de délier, et la pénitence est comprise comme un moyen de payer une rançon, et la prière d'absolution comprise en termes juridiques, comme l'acte de délier le pécheur de ses manquements à la loi et de ses transgressions. Cet aspect-là a été beaucoup développé dans certaines parties de l'Église, mais il faut savoir une chose, c'est pour ça que c'est peut-être encore très prégnant pour nous, c'est qu'elle a une certaine source dans l'Évangile, et en plus dans l'Évangile de Jean, qui dit, Jean 20, 30, 23, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors là, j'emprunte ça au père Job, avant qu'il ait été nommé évêque, qui lui fait ce lien. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on faut faire ce lien. Voilà. Mais je vous le donne quand même tel qu'il le donne. On pourra en reparler, parce que peut-être on peut interpréter autrement. Le second modèle de la confession, c'est celui de l'hôpital. C'est un modèle thérapeutique. Le Christ est le médecin, celui qui guérit. Le péché est considéré non pas comme une transgression de la loi, mais comme une maladie, et comme une maladie spirituelle. Et le repentir apparaît comme le remède qui va rendre l'intégrité au malade. Et ce modèle peut être rapproché de l'enseignement de l'apôtre Jacques qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Ce dernier modèle correspond à l'antique approche patristique, à l'esprit de la tradition byzantine. Le premier modèle est plutôt celui de l'Église, plutôt hérité de la scolastique. Ce qui est très important, c'est que peut-être qu'il ne faut pas totalement effacer le premier modèle. Il y a aussi un manquement à la loi, mais il faut voir comment. Et qu'est-ce que c'est la loi, entre guillemets ? Parce que quand même, Saint Jean, il parle des commandements du Christ. On a quand même des commandements à mettre en place. Donc c'est pas seulement des belles idées, il faut être gentil avec son prochain, ou je sais pas quoi. Il y a des choses très précises. Mais ce qui est important, c'est que c'est normalement, dans l'orthodoxie, c'est le second modèle qui domine de façon absolue. Absolue. Le modèle de la thérapie, de la maladie, du médecin. Quand je vais voir le médecin, je ne vais pas lui dire j'ai mal là alors que j'ai mal de l'autre côté. Je vais lui dire j'ai mal là et c'est vraiment là que j'ai mal. Et maintenant vous allez regarder de plus près parce que je voudrais être soignée. Ok ? Et je pense qu'il ne faut pas craindre de vraiment donner son mal. Moi, mon père spirituel m'a appris une chose quand j'ai découvert ça, la confession c'était facile. Il m'a dit tout ce qui est bon chez toi, tout ce qui est bon, tout ce que tu fais bien, c'est Dieu qui l'a mis en toi. La seule chose qui n'est pas de Dieu en toi, c'est ton péché. Mais donne-lui, t'as que ça à lui donner de toi. Mais il attend que ça. Tu vas lui donner le reste, mais le reste, c'est lui qui te l'a donné. Il n'a pas besoin que tu lui rendes. Donne-lui ton péché, donne-lui ta merde. Mais dépêche-toi de lui donner. Il n'attend que ça. Et après, c'est fini. Il le prend, et puis c'est fini. Ça part en poussière. C'est jeté au pied de la croix. C'est fini, quoi. Et je pense que c'est très important, ça. C'est la seule chose qui n'est pas de lui en nous, c'est notre péché. C'est notre non-amour, nos jugements, nos transgressions de tout, nos disputes, enfin tout. Toutes ces choses négatives, et toutes ces pensées qu'on rumine à longueur de journée, contre un tel, et pour un tel, et machin. Et puis ces partis pris, enfin bon, tout ce qu'on sait, hein, on pourra en reparler. Donc, si la confession est un sacrement de l'Église, un don que l'Église fait à tous les baptisés, y compris les évêques, les patriarches et tous les plus hauts de notre Église, afin que l'homme soit restauré dans sa nature originelle, alors et l'Église orthodoxe le dit, le sacrement de l'huile, dont il est question ici chez Saint-Jacques, est pratiquement très proche du sacrement de la confession. Le sacrement de l'huile et le sacrement des confessions sont tous les deux ensemble des sacrements de guérison. Alors voilà ce que dit, alors ça je le reçois aussi du Père Job, j'ai trouvé ce texte très intéressant. Il cite le canon 102 du concile in Trullo, qui est un concile qui a été très important pour les pères d'Orient, 6e siècle. Et ce concile in Trullo traite du ministère du Père spirituel, et voilà comment il le définit. Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de délier et de lier doivent examiner la qualité du péché et la promptitude au retour du pécheur lui-même, et alors seulement ordonner le remède approprié, de peur qu'en manquant de mesure dans l'un ou l'autre sens, ils n'obtiennent point le salut du malade. Vous voyez, ce qui est le plus important, c'est le malade. Il faut qu'il reparte guéri. En effet, la maladie du péché n'est pas simple dans sa nature, mais complexe et variée, poussant des ramifications nombreuses du mal, grâce auxquelles le mal s'étend et progresse jusqu'au moment où il est arrêté grâce au pouvoir du médecin. Mais c'est très très bien décrit, quoi, hein, on est complètement là-dedans. Le praticien de la médecine du Saint-Esprit doit donc en tout premier lieu examiner la disposition du pécheur. Donc ça, on en parlera davantage la fois prochaine. Et voir s'il tend de lui-même vers la santé, ou si au contraire, par sa conduite, il provoque sa propre maladie, et comment il se conduit dans le temps de la cure. S'il ne s'oppose pas à l'art du praticien, et que l'ulcère de l'âme ne s'étale pas à cause des médicaments apposés, et mesurer la, la miséricorde en conséquence. Donc il y a toute... Et c'est là où on voit que les saints-pères... ils n'écrivent pas n'importe quoi quand ils écrivent les canons dans un concile. On sent toute la finesse, justement, de la perception, de comment un pécheur, comment il va développer en lui cette maladie, et comment peut-être il se complaît dans sa maladie, et qu'il la provoque lui-même. Hein? Et ça, on est tous en plein dedans, je veux dire, on se reconnaît tous là. La volonté de Dieu et de l'homme, à qui fut confié l'office pastoral, et de ramener la brebis égarée, de guérir la morsure du serpent. Alors évidemment, la morsure du serpent, c'est à la fois Genèse, le fruit de l'arbre, mais c'est aussi le livre des Nombres, quand les serpents mordaient les fils d'Israël dans le désert, parce qu'ils avaient murmuré contre Moïse, et que Moïse leur enlève sur sa hampe un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent maîtrisé, dont Jésus lui-même dit ouvertement dans l'évangile de Jean, comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, moi aussi, que ce serpent d'airain maîtrisé est un type du Christ. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Et donc ce serpent, cette morsure du serpent, elle est terrible. Et il faut bien en avoir conscience. Donc la volonté de Dieu, c'est de guérir de cette morsure du serpent, sans pousser l'homme dans le précipice de la désespérance. Voilà. Donc vous voyez la subtilité. Donc il faut y aller, mais il faut pas outrepasser ce qu'on peut porter, quoi. Hein, dans l'accablement de la reconnaissance de son péché, il y a un moment donné, on peut tomber dans le désespoir. Et là, Saint-Silouane, il nous aide d'un grand secours. Hein, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Sans pousser l'homme dans le précipice de la désespérance, ni lui relâcher les rênes, vous voyez, jusqu'à une vie dissolue et pleine de mépris, et de toute manière, soit par des remèdes austères et amers, soit par d'autres doux et calmants, s'opposer au mal, s'efforcer de cicatriser l'ulcère, et l'unique but de celui qui juge des fruits du repentir avec prudence, prend soin de l'homme appelé à l'illumination céleste. Donc le but, divinisation, hein, c'est toujours le même but. Donc, il nous faut connaître les deux méthodes, donc c'est la fin du canon 102, il nous faut reconnaître les deux méthodes, celle de l'exacte observation des commandements, donc vous voyez, il faut observer quand même, est celle de l'expérience, et suivre à propos de ceux qui ne se contentent pas à accepter la sévérité, la méthode traditionnelle, comme nous l'enseigne Saint Basile. Bon, alors après, on pourrait approfondir beaucoup, hein, tous ces points, mais de toute façon, on reverra la fois prochaine. Donc, d'après ce canon, c'est clair, le péché est une maladie, le prêtre, le père spirituel, est un médecin, un praticien, il doit trouver exactement le médicament, l'épithymien, hein, les médicaments appropriés pour chaque patient à chaque moment, mais il doit aussi l'administrer dans la mesure appropriée, puisque le même médicament ne peut pas être administré dans les mêmes proportions pour chaque malade. Et là, moi, ça me renvoie tout de suite à l'homéopathie. Hein. L'homéopathie, vous avez un médicament qui est le bon, mais on vous a donné une mauvaise dilution, il ne marchera pas. On vous donne une dilution qui correspond, ça marchera. Donc c'est exactement ça, c'est exactement dans la bonne dose. Donc ça veut dire la responsabilité énorme du prêtre. Mais on en parlera une autre fois, la responsabilité du prêtre dans le sacrement de confession. C'est pourquoi le confesseur doit faire preuve de discernement, employer les canons, les règles ecclésiastiques avec le sens de l'économie. Le principe d'économie est l'exercice pastoral, consistant à appliquer des règles avec discernement à une situation concrète, toujours en vue du salut de la personne. Toujours. Le but, c'est le salut, le but, c'est la divinisation. Et donc, qu'est-ce que fait le confesseur? Il n'a qu'un modèle, c'est le Christ, médecin de nos âmes et de nos corps. Le Christ, notre sauveur. Imiter le Christ dans sa condescendance et dans sa compassion. Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit le Christ. Je suis venu pour les malades. Donc si on n'est pas malade, bah, c'est qu'il n'est pas venu pour nous, mais on n'a rien à faire dans l'Église. Excusez-moi, mais l'Église était l'hôpital des malades, et des malades qui guérissent. Pas des malades qui restent malades et qui sont contents d'être malades. Des malades qui guérissent et qui guérissent ensemble. Dernier point, pourquoi il faut se confesser? Est-ce que la confession est optionnelle ou obligatoire? Alors, j'ai posé que des questions. Hein. On répondra une autre fois ou vous répondrez vous-même. J'adore les questions. Je trouve que ça réveille un peu. Est-ce qu'il est nécessaire de se confesser à chaque fois qu'on se prépare à communier? Est-ce qu'on doit s'approcher de la confession uniquement lorsqu'on a conscience qu'on a quelque chose à confesser? Est-ce que la confession est une pratique normale, à exercer de manière régulière, ou est-ce que c'est un événement extraordinaire lié à un moment de crise? Est-ce que c'est une nécessité comme un bain froid quand il fait 40 degrés? Ou plutôt une occasion ou un moment où l'on peut faire l'expérience de la grâce divine? À quelle fréquence on la pratique? À chaque fois qu'on communie? Une fois par an, deux fois par an, cinq fois par an? Est-ce qu'il faut qu'on se repente une seule fois d'un péché commis, ou est-ce qu'il faut s'en repentir tout le temps? Est-ce qu'on doit confesser le même péché plusieurs fois, même si on ne l'a pas refait? Vous voyez toutes ces questions. Combien de temps doit durer une confession? Et où doit-elle avoir lieu? Et ça, c'est très important aussi. Parce qu'il y a des confessions qui ne peuvent pas avoir lieu devant l'icône qu'on tout le monde prie. Parce que c'est trop... Enfin, c'est pas possible, quoi. Il y en a d'autres, si. Bien sûr, c'est possible. Donc, c'est très important aussi, ça. Et quand on sent qu'on a quelque chose à déposer qui est vraiment... qui demande du temps, ben, il vaut mieux prendre rendez-vous avec le prêtre qui est toujours, de toute façon, toujours disponible pour ça. Il y a... Moi, je dirais qu'il y a un peu ces plusieurs types de confessions, hein, en fonction de... Voilà. Là où on en est, de ce qu'il faut qu'on a à déposer, etc. Est-ce que le pénitent doit attendre que le prêtre lui pose des questions? Ou est-ce qu'il doit confesser spontanément ses péchés? Et est-ce que le prêtre doit poser lui des questions ou est-ce qu'il faut qu'il écoute? Quelle est la place des épithymies dans la confession?
Donc,
les épithymies, c'est... Comment on pourrait dire? C'est un exercice que le prêtre te donne pour... voilà, moi j'en ai une costaud là, depuis la semaine dernière. Je dois répéter, je dois dire un nombre de psaumes, je ne vous dis pas le nombre combien, tous les jours. Voilà. C'est quelque chose que une prière ou quelque chose que un acte.
Ouais, mais chez les catholiques, c'était la pénitence.
C'est un mot que je voulais voilà, éviter.
Voilà. Voilà. Ouais. Mais voilà.
C'est pour ça que j'ai précédé de chez les catholiques.
C'est le mot que je voulais éviter parce que pour moi, c'est vraiment un acte que tu poses, qui en fait est ton médicament.
C'est un médicament.
C'est ton médicament. Voilà. Donc, si tu veux, L'épitimie, en fait, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que le médecin te donne et tu vas prendre le médicament.
C'est la prescription.
Voilà. La prescription.
C'est la prescription.
Ok. Bon, je préférais parce que le mot pénitent, c'est un mot que... Ouais.
Non, mais ça permet
j'ai
de...
J'ai du mal avec ça.
J'avais prévu qu'on allait en...
Bon, ça va.
Une question qui venait, mais elle a été posée avant. Okay. Mais c'est bien. Non, mais c'est très bien.
C'est aussi un exercice spirituel. Aussi.
Absolument.
Oui.
Absolument.
Oui.
Ouais. Quelle est la place... est-ce que la confection est uniquement personnelle ou collective? Ou est-ce qu'elle peut être collective? On sait par exemple que Jean de Constate, là, au XXe siècle, recevait des centaines de personnes pour la confession et confessait de manière collective. Donc est-ce qu'elle est privée, publique? Qu'est-ce que c'est que le secret de la confession? Qui peut confesser? Parce que Saint-Siméon, le nouveau théologien, c'est quand même pas n'importe qui, lui dit, en toutes lettres, hein, c'est écrit, il explique qu'il vaut mieux se confesser à un moine qui n'est pas prêtre, mais qui a vraiment qu'un prêtre qui... Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Bien évidemment que le sacrement, il passe par l'ordination. Hein, on est tous d'accord. Mais c'est très intéressant de voir que parfois, il peut y avoir un moment où on a l'impression qu'on se confesse à quelqu'un qui... Voilà. Parce que c'est une mère spirituelle, parce que c'est... voilà. Hein, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au sacrement aussi, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de déposer ses fautes, quoi. Et vous savez qu'un prêtre, il y a des prêtres qui ne sont pas habilités à confesser. Et ce n'est pas forcément, obligatoirement qu'au bout d'un an ou deux ans, le prêtre reçoit la bénédiction de l'évêque pour confesser. Il y en a qui ne confesseront jamais.
Il y en a qui ne confesseront jamais.
Jamais, voilà. Donc ce n'est pas pour rien que l'évêque ne donne pas bénédiction pour confesser.
Pour ceux qui sont observateurs, il y a des prêtres qui portent sur le côté un rectangle, un losange pendu, hein, un glaive. Et ce glaive est le symbole de ce qu'on appelle la paternité spirituelle. Alors ça devrait être discuté. La paternité spirituelle dans la tradition s'entend comme le droit de confesser, en fait. D'un point de vue là un peu juridique, pour le coup. Hein. Il y a des prières pour la création d'un père spirituel. Ça ne veut pas dire que tous les confesseurs sont des pères spirituels. Hein, mais voilà. Et ça symbolise habituellement le confesseur. Dans la tradition, dans une certaine tradition orthodoxe. Les Russes n'ont pas ça, par exemple. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. Ok. Et ensuite, la question... Je termine. Excuse-moi.
Oui.
Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on se confesse toujours à la même personne? Ça, c'est très important. C'est une question fondamentale. Et si jamais on ne se confesse pas au prêtre de notre paroisse, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il faut le dire? Parce qu'un prêtre, il est responsable de son troupeau. Donc, il ne voit des personnes, jamais de personnes qui viennent à se confesser auprès de lui. Il faut lui dire, moi, j'ai telle personne comme professeur. On peut bien sûr se confesser à un autre prêtre que sa paroisse, mais il faut que le prêtre de la paroisse, qui est responsable de son troupeau, le sache. C'est fondamental, ça. Hein, je vais conclure et puis je te donne la parole après, ça va? T'oublies pas? Donc, comment doit-on regarder le mystère de la confession au sein du monde moderne? Donc, il y a trois principes très importants. La confession traite du péché. Donc, il est essentiel que la confession... que notre pratique de la confession rappelle à l'esprit de l'homme moderne l'existence du péché. C'est très très important. Une réalité spirituelle qu'on ne veut plus regarder, qu'on ne veut plus, qu'on met de côté. Le péché doit être pris en considération, non pas sous l'approche moralisante, ni selon les catégories du bien et du mal, ni sur les catégories de ce qui est permis ou interdit, mais à l'intérieur d'une approche beaucoup plus existentielle, qui est celle de notre relation à Dieu, au Christ et à nos frères, et à notre propre progrès sur la voie de la déification. Deuxième point, il convient d'approcher la confession de manière thérapeutique. La confession est le mystère de la guérison. Elle nous conduit à une intégrité, à retrouver notre intégrité, restaure notre relation à Dieu et à nos frères. Et tout comme on va dans un hôpital ou on prend un médecin pour se faire soigner, on doit s'approcher de la confession pour être guéri de ces maladies spirituelles du péché. Et pas pour autre chose. Et pas pour guérir les maladies spirituelles de mon voisin. Mais des miennes.
Ou de mon épouse ou de mon époux.
Oui, oui. Enfin, ouais. Ou de mes enfants ou de mes parents. Enfin bon. Troisième et dernier point. L'attitude de confesseur est celle d'un, à la fois d'un médiateur entre l'homme et Dieu, mais il ne se préoccupe pas de ce qu'il doit dire. Il s'applique à écouter. Et en écoutant, en même temps qu'il écoute, le confesseur prie pour le pénitent. Pourquoi ? Parce qu'il est un intercesseur pour lui devant Dieu. Et il porte devant Dieu, avec le pénitent, son péché. Parce qu'il y a une chose qu'on a oubliée aussi, c'est que mon péché, c'est le péché des autres. Et le péché des autres, c'est mon péché. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'on est d'église. Et qu'on n'est pas tout seul dans sa petite individualité, mais qu'on essaie d'être des personnes. Et c'est tout à fait autre chose. Et donc, le pénitent, il porte le péché, le prêtre porte le péché du pénitent comme si c'était le sien, devant Dieu. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut être deux devant le Christ aussi, indépendamment du fait qu'il y a le sacrement de l'ordre et donc le sacrement. C'est qu'un frère avec son frère, dit le psaume, est une forteresse. Dès qu'on est deux, on est l'Église. Et donc, c'est seulement dans ces conditions qu'on va pouvoir, que la confession pourra être vraiment un instrument de la grâce divine, et que les paroles du Saint-Esprit vont pouvoir sortir de la, du cœur du confesseur et servir à la guérison spirituelle du pénitent. Voilà, merci.